Pour tout, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a en Libye, comme aux États-Unis, une convergence d'intérêts sur deux domaines, en fait. Le premier, c'est celui pétrolier. La Libye a besoin d'investisseurs pétroliers. Les États-Unis sont prêts à investir parce qu'eux-mêmes cherchent à délocaliser leurs sources d'approvisionnement en pétrole pour ne pas dépendre de seuls fournisseurs orientaux ou autres. Deuxièmement, la Libye est suffisamment armée en matière de ce qu'on pourrait appeler l'expertise de la lutte antiterroriste. Et les États-Unis sont, eux, dans une insécurité terroriste qui les amène à chercher à coopérer avec tous les États qui pourraient les amener à combattre les différents groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda.
Il y a un autre dossier sur lequel on peut dire qu'elle fait figure de bon élève, c'est le Darfour. Récemment, elle a reçu deux fois des conférences et des sommets. Est-ce que cette implication envers le Darfour et envers Khartoum, surtout, est louable ou est-ce que ça part vraiment d'une intention de pacification, selon vous?
Pour la Libye, ce qui est important pour elle, c'est qu'il ne faut pas que la communauté internationale ne lui reconnaisse pas ce statut de puissance régionale. Et c'est vrai que ces mini-sommets qui ont eu lieu récemment à Tripoli ont renforcé son prestige en Afrique. Depuis une quinzaine d'années, le régime libyen n'a pas hésité à développer d'excellentes relations avec les chefs d'État africains.
Est-ce qu'on peut parler d'une véritable implication aussi au Moyen-Orient?
Non, je crois que justement le retour de la Libye s'est fait à la condition, notamment de l'administration américaine, d'une désimplication de la Libye sur le conflit israélo-palestinien. Kadhafi n'est plus autorisé à parler, disons comme il faisait dans le passé, d'antisionisme, d'éradication de l'État hébreu, etc. Aujourd'hui, la Libye, qui n'a jamais été un grand acteur du Moyen-Orient, va l'être encore moins aujourd'hui. C'est une des conditions, disons, de ce retour-là, de ne plus soutenir les organisations terroristes et surtout de ne plus être un obstacle aux différentes tentatives, lorsqu'elles ont lieu, de la résolution du conflit israélo-palestinien. Rappelons que la Libye avait souvent fait obstacle à son intégration au partenariat euro-méditerranéen, en arguant du fait qu'il y avait l'État hébreu dans le partenariat. Aujourd'hui, elle aurait beaucoup de mal à réitérer ce type de propos.
Quelle est la stratégie de la Libye par rapport à l'Union européenne?
Pour l'instant, la stratégie de la Libye est de montrer que c'est plus l'Europe qu'elle qui a besoin de l'intégration de la Libye. Donc les Libyens pensent qu'ils ont d'abord des ressources pétrolières qui les mettent très loin des différents fonds de l'Union européenne. Ils n'ont pas besoin de cet argent-là. Deuxièmement, la Libye est beaucoup plus un enjeu qu'un acteur passif pour l'Europe, car c'est un lieu de passage pour les migrants. C'est en même temps un État qui fait le lien entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Donc toute l'Union européenne est consciente que sans la Libye, on ne peut pas aller très loin. Et en même temps, la Libye a fait monter les enchères. Plus les acteurs de la société civile européenne cherchent à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du pays, et l'affaire des infirmières bulgares le montre, les Libyens se disent donc que leur intérêt, c'est de ne pas se lier trop fortement avec l'Europe, mais d'être un fournisseur stable et sûr, et être un bon partenaire dans le cadre de la lutte antiterroriste. Après tout, ils y gagnent plus qu'autre chose aujourd'hui.
Si on prend l'exemple du procès des infirmières bulgares, c'est un cas isolé ou est-ce que vraiment on peut dire que ça représente un petit peu les dérives de la justice libyenne?
Ah non, je crois que ce n'est pas un cas isolé. La Libye est un État révolutionnaire et le régime craint qu'en démantelant l'État révolutionnaire, donc les tribunaux révolutionnaires, les comités révolutionnaires, etc., il se fragiliserait et voire même il risquerait d'être profondément déstabilisé.
La modernisation entre guillemets de la politique internationale va peut-être un petit peu plus vite que celle sur le plan national. Comment vous analyseriez ce paradoxe?
Moi, je dirais plutôt que la Libye n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la communauté internationale qui est confrontée aujourd'hui à une insécurité énergétique, à une insécurité terroriste. De fait, elle revoit et réinterprète différemment ses ennemis d'hier qui aujourd'hui peuvent devenir ses alliés.